tous et bienvenue dans ECHO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale. Le déclenchement de la guerre en Ukraine, ou pour employer la phraséologie officielle russe de l'opération militaire spéciale, est considéré par notre invité comme le quatrième événement majeur du 21e siècle. Après les attentats du 11 septembre 2001, la crise financière de 2008 et la crise sanitaire de 2020. Cet événement a créé ce qu'il convient d'appeler une onde de choc dans les relations internationales. Depuis, les conséquences à l'échelle planétaire sont, une à une, mises en lumière. Cette onde de choc concerne aussi le domaine maritime à plusieurs points de vue. Si la situation en mer Noire est régulièrement évoquée, mais souvent sous l'angle factuel, les conséquences vont en fait bien plus loin. D'abord par la remise en cause des routes maritimes traditionnelles, mais aussi par l'impact qu'elle a sur les stratégies maritimes et navales russes, et par ricochet, sur les rôles de la Turquie et de la Chine. Pour évoquer cette onde de choc maritime, c'est d'ailleurs une expression qu'il a utilisée dans un récent article publié dans la revue Défense Nationale, nous accueillons aujourd'hui l'amiral Udo de Dinville. L'amiral, chef d'état-major de la marine de 2005 à 2008, a aussi été, entre autres, commandant du porte-avions Clémenceau pendant la guerre de Yougoslavie. Pilote de l'aéronautique navale, marin du ciel, comme il aime le dire, il sait prendre de la hauteur. C'est donc avec sa hauteur de vue, ainsi que le recul dû aux fonctions qu'il a exercées, qu'il va nous expliquer en quoi la guerre en Ukraine est une onde de choc sur le monde maritime, dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Amiral, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bienvenue dans ECHO.
Merci beaucoup, bonjour à tous.
Alors pour commencer, Amiral, comme je disais en introduction, dans un récent article de la revue Défense Nationale qui a été publié en février, vous parlez d'une onde de choc maritime pour parler des conséquences du conflit en Ukraine. C'est une expression très forte. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ?
Oui, c'est très simple, parce que c'est simple et compliqué à la fois, comme tout ce qui est simple. Ce conflit en Ukraine a révélé que le monde, qui était dominé par la mondialisation, que le monde scinde maintenant en deux groupes. Le groupe occidental, 27 pays à peu près, dirigé par les États-Unis, avec le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne, et l'autre groupe, qui se retrouve dans l'organisation qu'on appelle les BRICS+, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces sigles, mais c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, et plus parce que d'autres frappent à la porte, et que l'on retrouve aussi dans une organisation plus asiatique, qui est l'organisation de coopération de Shanghai, à laquelle aussi d'autres pays veulent entrer, comme la Turquie et d'autres pays. Donc ces deux groupes maintenant sont en train de se séparer sur le plan économique, en particulier dans les sources d'énergie, le commerce des minéraux, mais aussi dans ce qui est beaucoup plus grave, la fragmentation financière. C'est-à-dire que les câbles sous-marins qui jusque-là transportaient la finance internationale, quel qu'en soit l'émetteur et le destinataire, maintenant ces câbles vont se séparer en deux, ceux qui transportent le dollar et ceux qui vont transporter la monnaie alternative que les pays du BRICS+ sont en train de constituer et qu'ils vont annoncer à leur propre prochain sommet en août de cette année en Afrique du Sud. Donc il y a un clivage maintenant dans le monde maritime que le monde de l'économie par excellence, et c'est ça, en ça qu'il y a une onde de choc maritime. Ce clivage n'existait pas avant.
Alors quelques mois après le déclenchement de ce qui est appelé en Russie l'opération militaire spéciale, le président Poutine a présenté la nouvelle doctrine maritime de son pays. Peut-on y voir, selon vous, une coïncidence ? Et pensez-vous que la guerre en Ukraine est une opportunité pour les ambitions navales russes ?
C'est plus qu'une coïncidence, parce que dans l'opération militaire spéciale, terminologie officielle, dans cette opération, si vous regardez une carte, ce qu'on ne peut pas faire dans un podcast, si vous regardez une carte, vous voyez que la Russie a conquis la côte sud de l'Ukraine, à l'exception d'Odessa, la ville de Catherine II. Et donc, avec ça, la Russie contrôle finalement l'exportation des céréales ukrainiennes et bien sûr russes. Et en plus, il y a un élément fondamental dans cette guerre en Ukraine, c'est la Crimée. Parce que la Crimée abrite la base de Sébastopol. Et une des raisons de cette guerre en Ukraine, c'est que l'Ukraine, en 2014, a refusé de renouveler le bail que la Russie avait pour cette base de Sébastopol quand la Crimée était ukrainienne. Et c'est la raison de l'invasion en 2014 de la Crimée par la Russie. Et c'est une des raisons de cette guerre, de la guerre actuelle, c'est de maintenir la souveraineté sur la base de Sébastopol qui est fondamentale pour la pénétration vers les mers chaudes de la Russie dans la lignée historique. Et le président Poutine aime avoir des références historiques. Je vous ai parlé de Catherine II, mais là, c'est de Pierre le Grand. Et cette pénétration vers les mers chaudes est contrôlée par la base de Sébastopol. Donc, cette nouvelle doctrine navale que l'on voit, qui a été publiée le 31 juillet, de l'an dernier, est un des éléments clés de la compréhension des opérations russes en Ukraine. Il n'y a pas uniquement que la guerre terrestre. La guerre terrestre n'est qu'un sous-ensemble de cette vision stratégique à long terme et que l'on retrouve dans la doctrine navale et qui veut maintenant affirmer la présence russe sur les mers et les océans de manière durable et forte.
Oui, bien sûr, cette présence durable et forte ne peut se faire sans accès aux mers chaudes, comme vous l'expliquiez. Alors, en quoi justement cette nouvelle doctrine navale est-elle vraiment nouvelle? Parce que vous le rappelez, au final, Vladimir Poutine aime s'ancrer dans des symboles historiques, et cette volonté d'accéder aux mers chaudes est aussi une constante historique de la Russie. La Russie modifie-t-elle réellement sa politique navale traditionnelle, donc, en fin de compte?
Alors, je ne vais pas remonter dans l'histoire de la marine russe. Je vais simplement commencer en 1962, c'est-à-dire la crise de Cuba. À l'époque, c'était l'Union soviétique et la marine soviétique était faible. En 1962, avec la crise de Cuba, l'Union soviétique a réalisé qu'elle avait besoin d'une grande marine. Mais les missions qui étaient confiées à ce moment-là à la marine soviétique étaient de couper le flux économique des Occidentaux, mais aussi, là c'était plus de la guerre d'escadre, de s'opposer à l'arrivée des renforts américains si jamais une offensive terrestre soviétique se déclenchait. Et c'est à ce moment-là, une série de croiseurs comme les Kinda, de la classe Kinda par exemple, ont été fabriqués, et surtout une force sous-marine dont le but était de s'attaquer aux porte-avions et aux convois américains. Ensuite, il y a eu une deuxième phase, mais en 2014, que l'on n'était plus soviétique, on était redevenu russe. Et en 2014, la doctrine navale voulait que la marine russe soit capable de défendre la Crimée. Et on arrive à cette doctrine de 2022 où la marine russe est un élément de la grandeur et de la puissance maritime de la Russie, parce que la Russie sait que pour être la puissance qu'elle veut être, il lui faut avoir une puissance maritime. Sans puissance maritime, on ne peut pas être une puissance. Il n'y a qu'un seul exemple dans l'histoire du monde de puissance non-puissance maritime, c'est l'Empire mongol.
Donc justement, vous parliez de puissance maritime, et pour être une puissance maritime, il faut une marine. Et on sait qu'une marine coûte très cher à constituer, à entretenir, et qu'elle implique surtout une infrastructure industrielle. Est-ce que vous pensez que la Russie ait justement les moyens de ses ambitions?
Alors, d'abord, dire qu'une marine coûte cher, c'est vrai, mais il n'y a pas que la marine qui coûte cher. L'aéronautique, ça coûte très très cher. Regardez combien coûte le programme SCAF. C'est très cher. Alors, une marine coûte cher, oui, mais une marine, ce ne sont pas uniquement des bateaux. C'est aussi des installations d'entretien, de fabrication et des ports pour abriter les navires et des équipages. Alors, les équipages, la marine russe, enfin les Russes sont très impliqués dans la marine de commerce. Vous avez 200 000 navigants russes sur des bâtiments non russes.
Oui, d'ailleurs, on en avait parlé au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, le fait que si tous les équipages de commerce russes et ukrainiens étaient rappelés, ça aurait bien embêté le commerce maritime.
Oui, parce qu'en plus, vous avez aussi une diaspora, entre guillemets, maritime russe, puisqu'il a formé de nombreux navigants dans ces écoles. Donc quand 200 000, c'est en fait près d'un million. Alors, il y a dans cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect construction navale. Les Russes, quand l'Union soviétique a disparu, ont perdu la capacité de construction navale de surface. Et ils ont par contre conservé une très forte capacité de construction de sous-marins. Et cette capacité de surface, ils ont voulu la récupérer en copiant les BPC français. C'est ce qui explique le contrat de BPC qui a été annulé, et les brise-glaces BPC destinés à la Russie sont maintenant brise les glaces en Égypte. Enfin, c'est un autre problème. Et donc, il faut effectivement, s'ils veulent avoir une marine, qu'ils reconstituent des arsenaux, un arsenal important, mais pour la flotte de surface, et qu'ils relancent la construction navale de surface. Alors tout ça, ça demande effectivement des moyens.
J'allais justement vous parler de l'Arctique qui apparaît comme un futur Eldorado pour la Russie. Comment est-ce que cela va influencer la future politique maritime russe selon vous ?
D'abord, l'an dernier, la Russie a restreint conditions d'accès à la route du Nord qui passe par l'Arctique. Vous avez la carte en tête, hein, la Russie en gros, le flanc sud de l'Arctique, et le Nord c'est le Canada et les États-Unis. Le groupe occidental se différencie du groupe eurasiatique, celui des BRICS et de l'OCS, se différencie par une vision très différente de l'environnement. Et il y a d'autres différences, mais dans le cas de l'Arctique, les Russes n'ont pas le même souci de l'environnement et veulent exploiter les énormes gisements de richesses à la fois minérales, énergétiques et énergétiques pour financer les moyens de son ambition de puissance, c'est-à-dire financer la construction d'infrastructures, réorganiser le secteur maritime, l'organiser en cluster un peu comme en France pour qu'il y ait véritablement les conditions pour accéder à la puissance maritime et pour développer des constructions navales dignes de ce nom. Et alors pour ça, bien sûr, ils ne vont pas tout inventer. Ils ont des très bons ingénieurs, mais ils auront aussi l'aide d'autres pays. Et là, c'est là où on va entrer dans des zones grises, où certains pays vont les aider pour pouvoir rapidement obtenir un niveau de construction navale de surface de grande qualité. Et je rappelle que, par contre, dans tout ce qui est flotte sous-marine, ils sont extrêmement performants.
Alors, amiral, vous parliez d'Arctique et de route du Nord, donc ça fait une transition toute trouvée. Avec la guerre en Ukraine, notamment pour des raisons d'exportation énergétique, les routes maritimes sont redistribuées. Quelles conséquences peut-on envisager à ce phénomène sur le long terme ?
Les routes maritimes doivent être surveillées. Donc sur le long terme, les conséquences vont être sur la surveillance, mais aussi sur les congestions des points de passage, des points resserrés, ce qu'on appelle en anglais les choke points, les goulots d'étranglement, voilà le terme. Et parmi ces goulots d'étranglement, il y en a 9 ou 10 qui sont importants dans le monde. Et il y a les goulots d'étranglement des zones du Moyen-Orient, parce que très liés à l'exportation de l'énergie. Mais aussi des céréales, parce que les vraquiers de céréales qui viennent de Russie ou d'Ukraine empruntent, pour aller sur la côte est de l'Afrique, les goulots d'étranglement de Suez et du Bab-el-Mandeb. Et donc il y a une pression d'ores et déjà dans ces goulots d'étranglement. Le trafic de Suez, par exemple, est de 55 navires par jour en moyenne avant l'opération militaire spéciale. Et maintenant, on atteint des pointes à 90 navires par jour. Donc vous voyez que ça montre que le trafic se réoriente. Alors, il y a aussi un élément important, c'est le trafic du gaz. Parce que le trafic du gaz, et le trafic au sens transit, hein, c'est pas au sens zone grise, non. C'est le trafic du gaz se fait, quand on peut, par des gazoducs. Et vous avez vu ce qui est arrivé au gazoduc entre la Russie et l'Allemagne. Et puis maintenant, les zones d'approvisionnement ont changé pour le clan européen. Les Européens ne s'approvisionnent plus en Russie. Donc il faut aller chercher le gaz ailleurs. Et l'Europe, il n'y a pas de gazoduc. Donc il faut créer les routes du gaz. Et une route du gaz, ce n'est pas uniquement le méthanier, c'est aussi la station de liquéfaction au départ et de régazification à l'arrivée. Parce que le gaz se transporte sous forme liquide. Et donc, il y a tout cette bascule qui est en train de se faire. Et pour construire une station de gazéification, il faut 4 ans. Sauf qu'on peut avoir des systèmes de remplacement plus rapides avec des stations mobiles et maritimes, mais implanter une installation prend 4 ans. Et par ailleurs, comme ça coûte plus cher de transporter du gaz liquide, eh bien, on va reconstruire des gazoducs. Il y a un projet en Méditerranée orientale pour exploiter les gisements de Méditerranée orientale qui font l'objet d'autres et âpres discussions avec les voisins. Mais donc tout ça, c'est en train de se remettre en place. Et puis, ce dont je parlais au début, les câbles. Les câbles aussi, actuellement, vous avez une pression à la fois du Moyen-Orient et de la Chine, enfin plutôt de la Chine et du Moyen-Orient, pour avoir ses propres câbles sous-marins pour acheminer la finance. Parce que les transactions financières, 10 000 milliards par jour transitent sur les câbles sous-marins. Bien évidemment, à majorité, c'est du dollar. Si vous dédollarisez le monde, vous aurez deux systèmes différents. Et là, si vous avez deux systèmes différents chez des rivaux, on se fait la guerre.
Et alors justement, Amiral, aussi, quand vous me répondiez, vous me parliez de choke points, et donc de choke points essentiels. Vous me parliez de Suez et de Bab el Mandeb.
J'aurais pu parler d'Hormuz aussi.
Bien sûr, mais ces deux choke points donc, qui sont sur la route qui va de la Méditerranée à l'océan Indien, ça m'a tout de suite fait penser aux volontés affichées par la Russie de construire justement une base navale au Soudan.
Alors ça fait partie, c'est dans la doctrine navale russe du 31 juillet, c'est un des aspects, la pénétration vers les mers chaudes, donc il s'agit de passer par le Bosphore, et puis de pénétrer, d'avoir des alliances avec des pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie Saoudite, qui est expressément nommée, mais aussi l'Inde. Et pour soutenir l'action maritime à la fois de commerce, mais aussi navale, c'est-à-dire de guerre, il faut avoir des stations, ce que fait la Chine avec le collier de perles, etc. Et parmi ces stations, il y a la volonté d'implanter une présence maritime à Port-Soudan. Mais ce n'est pas encore fait parce que, vous savez, la situation du Soudan est un peu compliquée.
Voilà, en fonction des régimes.
Alors, le CETA accepté, mais le Parlement n'a pas ratifié. Mais il n'y a pas de Parlement, donc en ce moment, une vacance.
Alors, le conflit en Ukraine a semblé conduire les États-Unis à se détourner un peu de l'Asie, et donc de la Chine, où les rivalités navales sont très fortes. Est-ce votre avis? La Chine a-t-elle plus de champs libres pour poursuivre sa domination navale sur la région?
Mon avis, c'est que la Chine a une vision à long terme, là où les États-Unis parlent les coups. Les États-Unis ont une vision stratégique très simple, c'est contenir la Chine, c'est-à-dire faire en sorte que les frontières des États-Unis soient la frontière terrestre de la Chine. Mais les États-Unis, dans l'année 2022, ont été obnubilés par l'opération militaire spéciale en Ukraine. La Chine, qui a toujours sa vision à long terme, qui est moins impliquée en Ukraine, en a profité pour passer un accord avec les îles Salomon. Parce que vous savez que la Chine a déployé une stratégie qu'on appelle la Belt and Road Initiative et que d'aucuns qualifient maladroitement de route de la soie, et que cette stratégie d'influence a deux tentacules, une qu'on connaît bien dans l'océan Indien avec le collier de perles dont on parlait, et l'autre dans le Pacifique. La tentacule de l'océan Indien a une base de soutien qui est à Djibouti, une grosse base, et celle de du Pacifique n'avait pas de base de soutien. Et la Chine a profité de l'assoupissement des États-Unis pour nouer des accords avec les îles Salomon, entre parenthèses, îles du Commonwealth, fermons la parenthèse, pour pouvoir avoir cette base qui lui permet d'asseoir sa présence. Alors les États-Unis ont réagi en septembre de l'an dernier, à la fin de septembre, en convoquant un sommet des îles du Pacifique, en promettant donc d'accroître la présence diplomatique et de déverser de l'argent. Donc ils ont voulu reprendre pied. Et puis il y a eu la réaffirmation de l'accord AUKUS, qui est directement orienté contre la Chine. Et donc, vous voyez, le conflit reprend. Et la priorité stratégique des États-Unis reste la Chine. Et si la Chine, si Taïwan devient trop préoccupant, les États-Unis laisseront tomber les mornes plaines d'Ukraine. Et l'Union européenne sera toute seule. Ça rejoint un peu ce que vous disiez. Gardez à l'esprit que la Chine a une volonté, c'est de remettre en cause les institutions internationales telles qu'elles ont été dessinées à l'issue de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Un exemple tout récent, condamnation par la Cour pénale internationale comme criminel de guerre du président Poutine. Réponse de la Chine 2-3 jours après, invitation en voyage officiel du président Poutine en Chine.
Au final, c'est une façon de dire vos institutions internationales. Nous ne les considérons pas comme importantes, comme comptant vraiment. Mais au final, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà depuis longtemps avec la remise en question du droit de la mer, au final, en mer de Chine méridionale.
Oui, mais vous savez, dans le droit de la mer, c'est très compliqué. Oui. Mais en fait, c'est très simple aussi. Il n'y a qu'une phrase à retenir. La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Alors pour conclure, amiral, je reprendrai une formule que vous employez dans l'article de la revue Défense Nationale. Vous y écrivez... Le véritable choc de la guerre en Ukraine, c'est que la Russie maritime veut exister. À votre avis, en a-t-elle réellement les moyens, à court ou moyen terme?
Je dirais à long terme, pour répondre tout de suite. Parce que qui dit marine dit suite, temps, volonté. La Russie a des dirigeants politiques qui s'inscrivent dans la durée. Donc la volonté est incarnée par le président actuel de la Russie, existe. Les ressources, qu'il faut de l'argent pour tout ça, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas là-dessus, mais la Russie sait que si elle veut progresser et devenir la puissance qu'elle veut, elle a besoin de cette puissance maritime. Donc c'est dans cette politique qui, encore une fois, s'inscrit dans les références historiques de Pierre le Grand et qui a eu quelques parenthèses dans la période soviétique, mais qui est dans les gènes, dans l'ADN, pour parler un langage jeune et moderne, dans l'ADN de l'âme russe.
Amiral Oudot de Dainville, merci de vous être plié à l'exercice, mais surtout d'avoir partagé avec nous votre expertise et votre regard sur la stratégie navale russe et les conséquences maritimes de la guerre en Ukraine. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs qu'ils peuvent découvrir votre article consacré au sujet dans le numéro 857 de la revue Défense Nationale. Enfin, je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain épisode d'Echo, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.